le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Avre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce qui...
Bah, disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour, bonjour et bienvenue, vous êtes dans Emmenez-moi sur la rage, Emmenez-moi à la forteresse du Faucon Noir. Aujourd'hui je suis avec Nicolas Sirotte qui est un membre de l'association des Chevaliers du Faucon Noir. Je suis sur le site, nous sommes sur le site dehors. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Alors Nicolas, peux-tu déjà dans un premier temps nous présenter l'association des Chevaliers du Faucon Noir, ça claque.
Ça claque un petit peu, oui. L'association des Chevaliers du Faucon Noir, c'est une association qui est assez jeune. Et en gros, c'est une association un peu plus ancienne, qui date de 2004, confrérie du Donjon, qui a été renommée les Chevaliers du Faucon Noir en 2010. Et il y a eu quand même un changement assez important de bureau. Hein. On a un nouveau président depuis 4 ans. Et cette association, elle a pour but, alors ça fait beau hein, de le dire comme ça,
vas-y,
de préserver et animer tout patrimoine historique et culturel qui aurait un certain attrait du point de vue historique et surtout de l'histoire médiévale.
Donc tu voudrais nous dire qu'il y aurait des choses à voir autour de ce donjon.
C'est ça.
D'accord. Alors est-ce que tu peux déjà nous dire comment ce donjon, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, comment il est venu à être aussi bien mis en valeur et puis qui en est à l'origine?
D'accord. Déjà, pour revenir du côté un petit peu histoire, hein, c'est assez intéressant. Le donjon, c'est celui qui est encore debout le plus vieux de France. Donc il date de 993. En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs. Et on a deux seigneurs qui s'appellent Foulque III Néra et Eudes de Blois, le comte d'Anjou, qui sont un peu la guerre.
Ils ont la même famille,
ils sont cousins. Et justement, Foulque III Néra, à l'époque, on le craignait assez. Il était, on disait, redouté du diable et craint de Dieu, rien que ça.
Rien que ça.
Pour vous décrire un peu le personnage, c'est quelqu'un qui a brûlé sa première femme en guise de divorce à l'amiable. Qui a eu une deuxième femme, un enfant, qui a toujours eu peur que son fils le double, donc il a toujours un peu répudié. Et c'est quelqu'un qui a voulu prendre la ville de Tours, qui était propriété de son cousin, donc de Blois, qui possédait Blois, Tours, Chartres, un peu toutes les grandes villes du coin. Et il voulait prendre Tours uniquement pour se faire un peu d'argent sur les commerçants qui passaient sur la Loire.
Donc c'est quelqu'un de charmant, visiblement, qui a un peu la bougeotte, on va dire ça comme ça, pour être sympathique, et qui aime bien se mettre des défis.
Voilà, complètement. Donc il est venu ici, dans le coin, en 993, et puis il a pris quelques villes pour encercler Tours. Donc il a pris Montbazon, Moncontour, Langeais, Sainte-Maure.
Il y a laissé des traces à chaque fois
ouais,
de son passage.
À chaque fois, il a laissé le plus de traces, c'est Loche et Montbazon, hein, c'est le seul endroit vraiment où on a vraiment une trace. Et il a commencé par faire ce qu'on appelle des mottes. Donc en gros, on met de la terre, on forme une espèce de colline, et on va y mettre dessus un donjon. Et les premiers donjons qu'il a fait étaient des donjons en bois, sauf que le bois ça brûle et ça pourrit. Donc il a remplacé tous ces donjons de bois par des donjons de pierre.
Donc là on est en quelle année à peu près?
994-993,
d'accord,
grosso modo. Et il a fait justement le donjon de Montbazon en pierre en 993. Et il l'a achevé vers 996-997.
Donc 4 ans à peu près de travaux.
Voilà, 4 ans de travaux. Donc au départ, il y avait juste une tour. Hein, on appelait ça uniquement le donjon, du fait de la présence de la tour. Et après, ça s'est transformé. Donc je vous l'ai dit, hein, il avait un fils. Hein, donc il s'appelait Geoffroy Martel, qui a fait construire un petit donjon comme son père, donc en 1050. Et puis après, l'histoire a fait que toutes ses propriétés sont repassées sous le domaine anglais. Hein, je ne vous fais pas l'histoire, Aliénor d'Aquitaine, les mariages.
D'accord. Et si on en revient à l'époque de Foulque, à quoi ça lui servait ce donjon? Est-ce qu'il y était souvent ou est-ce que c'était quelqu'un qui était simplement de passage ici de temps en temps?
Alors il y était souvent, on n'a pas trop de traces, mais on sait qu'il était souvent entre Loche et Montbazon, donc pas très très loin, hein, et qu'il venait ici pour voir un peu pour mettre ses troupes à des points stratégiques. Hein. Mon bason est quand même situé à côté de l'Indre et sur une route commerciale qui allait du sud de la France jusqu'à Tours.
Ouais.
Donc il voulait voir un peu ce qui s'y passait. Il a vécu sur place, hein. On a des traces de sa vie dans le donjon lui-même, hein. Il vivait dans les étages hauts.
D'accord.
Et il avait installé vraiment une chambre, ses appartements, une salle de bain, on a retrouvé pas mal d'objets. Mais il est resté en fait ici peu de temps parce qu'il partageait son temps entre ce coin, Loches, mais aussi l'Angers, donc le nord de Tours et l'ouest de Tours.
Il avait des ambitions. À quoi ressemblait la France à cette époque-là? Est-ce qu'il pouvait prétendre à mieux que cette situation? Est-ce que lui aspirait à devenir calife à la place du calife? Et est-ce qu'il guerroyait tout le temps ou est-ce qu'il se calmait des fois?
Il guerroyait énormément en fait. C'était quelqu'un de très sanguinaire qui essayait de réunifier le royaume d'Anjou et le royaume qui était propriété de son cousin de Blois. En gros, son projet c'était de régner un peu sur tout l'ouest de la France. Sauf que, il y a eu pas mal, il a commis pas mal de meurtres, hein, il a fait pas mal de choses dont il n'était pas très fier. Et pour s'excuser, entre guillemets, de tout ça, il a fait 5 ou 6 pèlerinages à Jérusalem. Donc c'était quelqu'un qui associait guerre et religion. En gros, je tue 300 personnes d'un coup et pour me faire pardonner, je vais à Jérusalem expier mes fautes.
Et alors, à l'époque où nous, on voyage assez facilement par le train ou l'avion, comment est-ce qu'on se rend à Jérusalem en l'an 1000?
Alors, généralement, c'est à cheval et ça peut durer jusqu'à 2-3 mois pour aller là-bas, donc 6 mois aller-retour.
Donc 4 fois, il a passé la moitié de sa vie à cheval, ce monsieur, en fait.
Alors oui, sachant qu'en plus, je précise, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps. Il est né en 970, il est mort en 1040, donc il a quand même vécu 70 ans. Pour l'époque, c'est énorme.
Donc il avait vraiment la santé, en fait. Ouais. Il était un peu hors norme, déjà. Ouais.
C'est ça.
Donc il passe beaucoup de temps à cheval et le reste de ses passe-temps, c'est quoi? C'est la chasse
La chasse, très peu. C'est plutôt commander pas mal de gens. C'était quelqu'un, un chef d'armée assez important. Et c'est quelqu'un qui aimait commettre tout ce qui était meurtre, tout ce qui était vraiment chose pas très avouable à notre époque. C'est quelqu'un qui avait eu pas mal de femmes, pas mal d'enfants. Bref, quelqu'un de pas très fréquentable pour l'époque.
Bien, merci Nicolas. On va faire une petite coupure musicale et on revient juste après pour évoquer l'après Foulque Néra sur la forteresse de Montbazon. A tout de suite.
Thank you.
C'est Rémi Baudin, on est encore dans Emmenez-moi, on revient avec Nicolas Sirotte de l'association des Chevaliers du Faucon Noir qui nous parlait juste avant la petite pause sur la rage de Fulconera, ce charmant personnage qui a construit, qui est à l'origine en tout cas de cette forteresse de Montbazon. On va maintenant évoquer avec toi Nicolas ce qui a suivi après, entre 1000 et 2000 si je peux dire ça comme ça.
Alors l'histoire est assez compliquée et dense. Pour faire simple, après la mort de Fulk, donc en 1040, son fils a repris les terres et pas resté là très longtemps. Et par les mariages de l'époque, tout l'ouest de la France se retrouve sous domination anglaise, je vous refais pas l'histoire, avec Aliénor d'Aquitaine. Et on a eu des personnages illustres qui sont venus ici, comme Richard Cœur de Lion ou Jean Santerre, qui sont venus, bon, très très peu, mais qui sont quand même venus, qui ont quand même mis une trace, parce que ça reste quand même Richard Cœur de Lion qui a transformé le donjon en forteresse. En gros, le donjon, c'est uniquement une tour. La forteresse, ouais, c'est tout ce qui va être lié, donc pont-levis, murailles, lieu de vie, commun, château. Et justement, il va avoir fait, lui, tout ce qui va être château pendant 2 siècles. Donc c'est lui qui a donné l'impulsion de cette construction. À savoir que ce château, on ne peut plus le voir aujourd'hui parce qu'il a été détruit. Donc je vous explique en gros, le donjon était relié avec plusieurs communs, donc des lieux de vie, des cuisines. Et ce château a été détruit. Alors on n'a pas trop les dates parce qu'il y a très très peu de traces écrites. Grosso modo, on pense entre 1200 et 1250 grand max.
Oui.
Et les pierres auraient été utilisées pour dévier l'Indre. En gros...
Alors, comment dévier l'Indre ?
Voilà, comment dévier l'Indre ? En gros, au départ, l'Indre, c'est une rivière qui est assez droite, qui forme une ligne droite et qui traverse l'Indre-et-Loire et Montbazon en ligne droite, justement. Et en gros, à côté du donjon, on a l'Indre qui passe. Et ces pierres auraient été mises à un endroit pour boucher, faire comme un mur. Et on aurait recreusé à peu près sur 500-600 mètres un virage pour dévier l'Indre justement et éviter qu'elle passe trop près du donjon. Parce qu'avec l'érosion, le donjon se serait effondré. Donc voilà un petit peu pour cette histoire de la déviation de l'Indre.
Et donc la déviation de l'Indre, elle se situe à l'endroit de la place de l'hôtel de ville de Montbazon en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, quand on se poste sur le pont qui se trouve à l'entrée de Montbazon, on voit bien que ça forme comme un espèce de virage et qui nous montre que ça fait une forme de U. Et justement, la déviation se trouve exactement à l'endroit de la place de la mairie.
Ok, donc dans les années qui ont suivi, après ce château qui a été rasé et l'Indre qui a été empierré, qu'est-ce qui s'est passé sur ce site ?
Donc en gros, on a le site qui revient sous domination française, avec Louis XI, Louis XII. Et on a surtout le donjon qui redevient habitable. On a un autre château qui est fait et qui est lui encore détruit pour des raisons de financement. Ça coûtait trop cher.
Et qui est-ce qui habite, quel souverain ?
Alors en gros, c'est sous l'époque de Louis XII. Il est venu donc pas très très longtemps. On estime qu'il est venu ici 1 à 2 mois et que l'entretien du donjon coûtait trop cher au royaume de France et il a fait détruire pour éviter d'avoir des problèmes financiers plus tard. Et là, on a un trou dans l'histoire pendant 4-5 bons siècles, pendant lesquels on ne sait pas trop ce qui se passe et il n'y a pas de réel entretien du site et le donjon commence un peu à s'effondrer.
Dans l'histoire de France, il n'est plus rien.
Voilà, il n'est plus rien, il n'est qu'un lieu de seconde zone. Et au 19e siècle, en 1866 plus exactement, un dilemme se pose. Soit on rase complètement le donjon et on fait autre chose à la place.
Oui.
Soit on sauve, mais il faut qu'il y ait une certaine utilité. Et le curé du village, donc à cette époque, a une idée.
À l'époque où il y avait encore des curés, effectivement.
À l'époque où il y avait encore des curés. À savoir que l'église de Montbazon se trouve juste en contrebas oui. du donjon.
Et elle était liée avant ou non?
Non,
était faite,
pas du tout. Elle était faite complètement indépendamment. Mmh. Et il s'est dit, eh ben, tiens, on a quand même un site assez grand, qu'on voit de très très loin. Hein. En gros, je vais dire les choses assez simplement, mais pour se faire un petit peu de pub, hein, même lui l'avouait, il a mis une vierge sur le donjon, donc une vierge qui fait à peu près 10 mètres de haut, qui est en bronze et qui fait 9 tonnes.
Donc pour ceux qui ont l'habitude de passer à Montbazon, de prendre l'ancienne Nationale 10, vous apercevez cette grande dame qui vous regarde passer, et bien c'est d'elle dont on parle.
Voilà, justement, celle-ci l'a mise ici pour que les différents pèlerins et visiteurs puissent repérer l'église plus simplement, sachant que la Vierge, bah, c'est le point de vue le plus haut sur la ville de Montbazon.
Et donc aujourd'hui, cette Vierge menacerait-elle de s'effondrer, ou en tout cas d'effondrer une partie de la forteresse ?
Alors non, elle a sauvé même plus tôt. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent, quand ils viennent visiter le site, qu'une Vierge n'a rien à faire sur un édifice militaire, ce qui est vrai. Sauf que cette Vierge, maintenant, ça fait 150 ans qu'elle est là.
Elle fait partie de l'histoire.
Elle fait partie de l'histoire et en gros, c'est elle qui consolide, qui stabilise le donjon. En la retirant, on risquerait plutôt l'effondrement qu'en la laissant sur le donjon, malgré ses 9 tonnes de poids.
Donc pas de chantier prévu pour la déplacer?
Non, non, non.
Alors moi, quand j'étais venu ici l'année dernière, je m'étais baladé un petit peu, puis j'avais vu qu'il y avait des souterrains, qu'il y avait des choses. Est-ce qu'on a connaissance de certaines histoires, légendes de ces souterrains? Où mènent-ils? Est-ce qu'on a des histoires comme ça?
Alors oui, ces souterrains, en fait, on en a découvert donc jusqu'à 7 niveaux les uns au-dessus des autres. Donc c'est quand même assez impressionnant. Nous on a déterré jusqu'au 3e niveau, donc à peu près 14 mètres de profondeur.
Ouais.
À savoir que les souterrains allaient très très loin dans la ville, hein. On a un souterrain qui va jusqu'à l'église et on dirait même qu'il y en a un qui va sous l'Indre. Bon, l'époque du tunnel sous la Manche avant le moment, je ne suis pas sûr.
Encore une légende,
mais les souterrains ont quand même une utilité avérée. Donc au 12e siècle, c'est la torture.
Oui, effectivement, d'ailleurs, on le voit quand on visite chez vous, il y a des gens dans un sale état, dans des cachots, oui, pourquoi pas, à la limite. Ils sont découpés en morceaux, ils ont des bras dans des cachots, non, dans des cachots, pardon. Et ça, c'est une légende encore ou vraiment,
vraiment avéré.
On voit l'appareil de torture d'ailleurs aussi.
Voilà, c'est vraiment avéré. En fait, on a retrouvé une petite salle qu'on a bien sûr déblayée pour des raisons de sécurité. Ouais. Et en gros, on a retrouvé des traces de torture très sympathiques qui se faisaient, comme de l'élongation, l'écartèlement, l'empalement. Donc en gros, on vous met sur une chaise et on attend que la gravité fasse son effet. Ce sont des choses très sympas qui ont eu lieu pendant 1 ou 2 siècles quand même. Hein.
Et alors, un dernier petit mot avant qu'on refasse une petite coupure musicale. Est-ce que tu peux me parler du couillard ?
Le couillard, oui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une machine de guerre qui se trouve sur le donjon.
Alors, qui date de l'époque de Foulk ou...
Alors, c'est une reconstitution, mais qui date justement le modèle de l'époque de Foulk. C'est ce que les Italiens ont appelé un bifa. Et nous, avec notre classe internationale à la française, on appelle ça un couillard.
Oui, mais alors, il faut le voir pour comprendre.
Bah, justement, couillard, ceux qui nous écouteraient, c'est en gros, vous avez deux bourses et une verge. Il n'en faut pas plus pour rapprocher ça de l'anatomie de l'homme.
Effectivement, et c'est assez visible.
Et justement,
comment
c'est
ça fonctionne?
Une machine de guerre. En gros, on a deux contrepoids et un mât au centre.
Ouais.
Donc les différents visiteurs appelleraient ça une catapulte.
C'est une catapulte.
Alors oui et non, parce que la catapulte, ça date de l'Antiquité, donc avant. Là, le couillard, en gros, on peut lancer des charges assez lourdes, hein, et on lance des charges en cloche. Faut pas oublier qu'à l'époque, quand on est en siège, donc on va vouloir attaquer une propriété, on va pas vouloir la détruire, donc on va faire des tirs en cloche, et on va pouvoir faire des tirs jusqu'à 500 mètres, 600 mètres facilement.
Et on l'utilise souvent ?
À notre époque ou...
Non, à l'époque.
À l'époque. Alors oui, on l'utilise souvent, on peut faire jusqu'à un tir par heure.
Ouais.
Et il faut savoir qu'on en a retrouvé des traces d'un qui aurait été ici, à mon bazon, qui aurait été utilisé à peu près 2 ou 3 fois par jour pendant 2 ans.
D'accord.
Donc assez important quand même.
Bien, et ben on va faire une petite pause et on se retrouve après pour terminer cette émission sur la forteresse du Faucon Noir. Emmenez-moi à la forteresse de Montbazon. On est de retour sur la rage avec Nicolas Sirotte, membre de l'association des Chevaliers du Faucon Noir. Alors donc Nicolas, on a évoqué la construction de ce donjon, son histoire, son historique depuis 2000 jusqu'à globalement 1900, 2000. On sait que c'est un site qui est fait de plein de légendes, on raconte de plein de choses, alors pour notre plus grand plaisir, parce qu'on arrive toujours à se demander si c'est vrai ou pas. Est-ce que toi, tu as encore 2-3 anecdotes en stock qui traîneraient comme ça ?
Alors oui, j'en ai quelques-unes. Donc déjà, une qui est liée à la Vierge. Elle a été construite, donc, je vous ai dit, en 1866,
oui.
Sauf qu'on dit qu'elle a été montée sur le donjon en une nuit. Je rappelle juste qu'on est en 1866, qu'on n'a pas les moyens humains qu'on a aujourd'hui, ni les moyens mécaniques.
Et qu'elle pèse son poids.
Et qu'elle pèse quand même 9 tonnes. Donc l'avoir montée en une nuit, on dirait que c'était le miracle de Montbazon. Donc à voir, hein. Donc ça c'est un premier...
Et ça a fait parler un petit peu, ça a alimenté...
C'est ça, c'est l'une des légendes... les plus importantes. On en a aussi une deuxième, donc pour ceux qui croiraient à tout ce qui est fantômes, malédictions et ce genre de choses, on a l'histoire d'une dame blanche qui viendrait sur le site toutes les nuits de pleine lune, donc entre ce qu'on appelle le donjon et le petit donjon, donc pour ceux qui viendront visiter, en gros c'est entre la tour principale et l'une des petites tours, et qui viendrait ici entre les deux apparaître entre 2 et 3 heures du matin.
Et alors, est-ce que vous organisez des visites nocturnes les soirs de pleine lune entre 2 et 3 heures du matin pour l'apercevoir ?
Alors non, parce que je pense qu'il y en aurait plus d'un qui nous ferait une syncope ou je ne sais quoi, mais ce serait peut-être une idée à mettre en place.
C'est à creuser.
Ce serait une idée à mettre en place, et comme dans les souterrains, on dit qu'on entendrait certains soirs des chaînes qui bougerait et ce serait lié aux différents morts.
Qui parlent encore et voilà,
qui
bougent encore.
Bon, ça, les gens y croient dur comme fer parce qu'il y a des chauves-souris, il fait noir, donc ça met une ambiance assez particulière.
Effectivement, un rien peut habiller ce genre de témoignage et faire croire que. Et c'est ça qui est,
c'est ça.
C'est ça qui est beau. Et peut-être, finalement, peut-être que c'est vrai.
Ah oui, nous, on ne juge pas sur ça.
Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe alors dans cette forteresse avec l'association dont tu fais partie ? Quand est-ce qu'on peut la visiter ? Quel genre d'animation vous proposez ?
Alors la forteresse, elle est visitable grosso modo tous les week-ends de mai-juin. Elle est aussi visitable tous les jours de juillet-août. à savoir qu'on propose, donc comme les années précédentes, une visite, ce qu'on appelle animée. Donc en gros, c'est un chevalier qui vous prend en charge sur le site et qui vous embrigade, si je puis dire, dans ses troupes.
D'accord.
Donc à la découverte de tout le site, ça dure une bonne heure. Et on a aussi un village médiéval qui est reconstitué avec des artisans de l'époque, donc les métiers du cuir, du tissu, la calligraphie, l'enluminure, le tir à l'arbalète, des jeux, plein de choses. Donc vous pouvez rester sans souci plus d'une journée sur le site si vous voulez tout voir. On a aussi des visites nocturnes les vendredis et samedis soirs en juillet et août.
Et alors je reviens sur juste les marchés. C'est indépendant des vendredis et des samedis.
Oui, c'est complètement indépendant. Hein. Visite des marchés médiévaux, c'est vraiment tous les jours de juillet et août.
D'accord.
Et tout ce qui va être nocturne, donc événement un peu plus particulier, en gros, c'est la visite de la forteresse au flambeau, donc avec spectacle de feu, jonglerie. Mmh. Ça commence à 19h.
Tir de couillard,
bah oui, toujours. Donc ça commence à 19h, en gros, avec la découverte des métiers. Et à 22h, on part à la découverte du donjon, à la découverte des souterrains, un petit peu de tout. Et on finit tout ça en apothéose avec un spectacle qu'on appelle pyrotechnique, donc avec spectacle de jongle de feu.
Il y a du tir à l'arbalète, je crois, aussi.
Tir à l'arbalète, oui. En gros, le leitmotiv du site, c'est mettez-vous à l'ouvrage. Donc, on va avoir plusieurs initiations de fête. Par exemple, sur l'arbalète, on va vous proposer aux petits comme aux grands de tirer, avec bien sûr l'accompagnement d'un animateur. Et on va avoir aussi plusieurs démonstrations, donc armes de guerre, comme on disait tout à l'heure,
le couillard. Des sabres, des épées.
Voilà, un petit peu tout ça. Et on va avoir aussi de la confection de choses. Donc, par exemple, sur l'atelier cuir, une bourse en cuir. Sur l'atelier laine, le tissage d'un petit bracelet. Des choses.
On fait toujours référence à une époque comprise, on va dire, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est quoi?
Alors, nous, on va le considérer plutôt entre le 10e et le 13e siècle.
Ouais, d'accord.
Mais il court facilement jusqu'au 15e, hein, quand même.
Okay.
Et on a un événement un peu plus particulier qu'on organise tous les ans.
Parlons-en.
Donc, notre tournoi de combat médiéval qui a lieu normalement le deuxième week-end de septembre. Donc, la date reste encore à définir.
Bien sûr.
Et qui est le plus grand tournoi de ce type en Europe. Donc à savoir qu'on a accueilli en 2014 13 nationalités, donc ça va des Français aux Belges, aux Russes.
Alors raconte-nous, parce que est-ce que c'est un truc super sérieux ou est-ce qu'il y a beaucoup de folklore?
Alors c'est un mélange un petit peu des deux en fait. Ce qu'on appelle le full contact médiéval, ça reste un sport. Donc c'est en ce qu'on appelle 1 contre 1 ou 5 contre 5, donc 1 d'une équipe contre 1 d'une équipe ou 5 d'une équipe contre 5 d'une autre équipe. Et en gros c'est un sport, hein. Donc on a des coups qui sont interdits, donc ce sont des combats à pied, où les chevaliers combattent en armure intégrale, avec des épées, des haches, des boucliers, et doivent mettre l'équipe adverse à terre.
Donc c'est des chevaliers sans chevaux.
Voilà, c'est ce qu'on appelle du combat à pied, c'est tout à fait historique.
D'un coup, je suis déçu. Les voyais se rencontrer, partir l'un en face de l'autre et puis taper le premier qui tombait par. Ah, je voyais un truc violent. Moi.
Bah, ouais. Ça, c'est ce qu'on voudrait faire sur le long terme. Sauf que maintenant.
Ça existe dans d'autres endroits, ça. Les chevaliers qui vraiment reproduisent des combats comme on peut voir dans les plus grands films. Ou vraiment, c'est.
Non, c'est quand même assez rare quand même.
Donc là, ils combattent à pied.
Les combats à pied, c'est vraiment le combat qui est fait par la Fédération de combat médiéval. C'est vraiment tout ce qui est fait en France. Hein.
Donc, vite fait, comment ça se déroule le tournoi? Tu dis qu'il y a différentes nationalités. Est-ce que nous, les Français, on est des bons combattants ou pas?
On n'est pas les premiers, mais on n'est pas les derniers quand même.
T'as du viking qui vient, t'as des gros. T'as du lourd du nord qui descend.
Vraiment, tout ce qui est lourd, ça va être du côté russe, anglais. Donc, les Russes sont tenants du titre, hein, sont les premiers. Et on va avoir après les Anglais, donc ce qui s'appelle l'équipe Battle Heritage. Et après, on va avoir quand même une ou deux équipes françaises à la 4e, 5e place.
D'accord, donc on vient vraiment du monde entier, entre guillemets, ici pour. Tous les mois de septembre.
Voilà, c'est complètement ça. C'est le plus grand tournoi de France. Et c'est le rendez-vous incontournable de tous ceux qui veulent combattre en France.
Bah écoute, Nicolas, si tu as d'autres messages à faire passer pour l'association, pour la forteresse, n'hésite pas, des choses dont on n'aurait pas parlé.
Alors l'association a juste une petite parenthèse de une minute. Hein. L'association a un projet Horizon 2024. C'est la création de ce qu'on appelle d'un archéosite. Donc en gros, on a trois terrains qui nous appartiennent, qui sont adjacents à la forteresse. Et on voudrait recréer un village complet avec des halles médiévales, ce genre de choses. Donc c'est quand même quelque chose sur le long terme. Et on va mettre en place quelque chose déjà à court terme, d'ici la fin de la, d'ici, oui, de 3 mois, grosso modo, qui est la mise en place d'une halle médiévale sur le site. Donc ça a quand même un coût, donc c'est pour ça qu'on fait tout un peu sur le long terme. Donc cette halle va être mise en place pour faire tout ce qui va être accueil public scolaire, mais aussi pour accueillir les gens qui vont venir visiter le site en été. Quand il ne va pas faire beau, eh bien, ils pourront être abrités sous quelque chose de clos.
En deux mots, vos financements, c'est quoi ?
Eh bien, c'est nous. C'est uniquement, en gros, c'est presque uniquement que de l'autofinancement. Le reste vient un petit peu de, du conseil général, mais ça reste infime. Hein. Le tout, ça reste.
Donc, c'est des partenaires privés ?
Oui, c'est plus sous forme de dons et tout ça. Et justement, on cherche pas mal de gens pour nous aider à développer tout ça dans les 2-3 ans qui viennent.
D'accord. Bah écoute Nicolas, je te remercie d'être venu dans Emmenez-moi nous présenter ce très beau site de Montbazon, visiblement avec des projets d'avenir. Nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve dans une prochaine émission d'Emmenez-moi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.la-du6rage.fr et retrouver toutes les autres émissions du service jeunesse et des jeunes de la CCVI. Merci Nicolas.
Merci.
Bon courage pour la suite. À
Merci.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Œuvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.